Une jeune femme en chapeau et toilette était assise, seule, pressant son sac à main contre elle. Elle détourna le regard dès qu'Albert entra dans la salle d'attente, et ce n'était pas facile de n'être pas vue parce qu'il n'y avait qu'eux et les deux chaises face à face. Elle se tortilla, regarda par la fenêtre par laquelle on ne voyait rien, et toussa pour mettre la main devant son visage, plus inquiète d'être remarquée que de regarder cet homme dont l'hémorragie ne s'arrêtait pas, il était déjà couvert de sang des pieds à la tête, et dont la tête disait assez qu'il venait de passer un sale quart d'heure. Il s'en passa un second avant qu'à l'autre bout de l'appartement, on entende quelques pas, une voix, et qu'apparaisse enfin le docteur Martineau. La jeune femme se leva, s'arrêta aussitôt. En voyant l'état d'Albert, le docteur lui fit signe. Albert s'avança, la jeune femme revint à sa chaise, sans un mot, et se rassit comme puni. Le médecin ne demanda rien, tâta, pressa ici et là, posa sobrement un diagnostic « Vous êtes bien fait casser la gueule », tamponna les trous des gencives, recommanda de consulter un dentiste et recousit la plaie à l'arcade. 10 francs. Albert retourna ses poches, se mit à quatre pattes pour récupérer les quelques pièces qui avaient roulé sous le siège. Le médecin rafla le tout. Il n'y avait pas 10 francs, loin de là. Il leva les épaules, résigné, et dirigea Albert vers la sortie, sans un mot. La panique saisit Albert aussitôt. Il se retint à la poignée de la porte cochère. Le monde se mit à tourner autour de lui, le cœur cognait, envie de vomir, et l'impression de fondre sur place ou de s'enfoncer dans la terre, comme dans des sables mouvants. Un vertige effroyable. Il avait les yeux écarquillés, se tenait la poitrine, on aurait dit un homme terrassé par une attaque cardiaque. La concierge arriva aussitôt. « Vous n'allez pas vomir sur mon trottoir, hein, au moins ?» Il était incapable de répondre. La concierge regarda son arcade recousue en hochant la tête et leva les yeux au ciel. Il n'y a pas plus douillet que les hommes. La crise ne dura pas, violente mais brève. Il avait connu les mêmes en novembre et décembre 18 au cours des semaines qui avaient suivi son ensevelissement. Même la nuit, il se réveillait sous la terre, mort, asphyxié. La rue dansa autour de lui quand il se mit à marcher. La réalité lui semblait nouvelle, plus vague que la vraie, plus floue, dansante, vacillante. Il avança en titubant vers le métro. Chaque bruit, chaque claquement le faisait sursauter. Il se retourna 20 fois, s'attendant à chaque instant à voir surgir l'énorme Poulos. Quelle poisse! Dans une ville pareille, on pouvait rester 20 ans sans rencontrer un ancien copain, et lui, il tombait sur le grec. Albert commença à avoir terriblement mal aux dents. Il s'arrêta dans un café boire un calvados, mais à l'instant de commander, il se souvint qu'il avait tout donné au docteur Martineau. Il ressortit, tenta de prendre le métro, l'atmosphère confinée l'étrangla, une bouffée d'angoisse l'étreignit. Il remonta à la surface, termina son chemin à pied, rentra, épuisé, passa le reste de la journée à trembler rétrospectivement, en mâchonnant sans cesse les détails de ce qui lui était arrivé. Parfois, il était pris d'une colère noire. Il aurait dû le tuer à leur première rencontre, ce salaud de grec. Mais le plus souvent, il contemplait sa vie comme un désastre sans nom. Sa petitesse lui portait au cœur, et il sentait qu'il lui serait difficile de ressortir. Quelque chose dans sa volonté de se battre s'était cassé. Il se regarda dans la glace. Son visage avait pris des proportions impressionnantes. Les hématomes viraient au bleu. Il avait une tête de bagnard. Son camarade aussi, naguère, s'était regardé dans le miroir pour y constater la même ruine. Albert envoya la glace au sol, sans colère, ramassa les morceaux et les jeta. Le lendemain, il ne mangea pas. Tout l'après-midi, il tourna en rond dans le salon comme un cheval de manège. La peur le saisissait de nouveau chaque fois qu'il repensait à cet épisode. Et avec des idées idiotes, le grec l'avait trouvé, il pouvait enquêter, aller voir son employeur, venir le chercher ici, réclamer son dû, le tuer. Albert courait à la fenêtre, mais de là il ne voyait pas la rue par laquelle Poulos pouvait surgir, seulement la maison de la propriétaire avec, comme toujours, Madame Belmont derrière sa fenêtre, le regard vide, le visage perdu dans ses souvenirs. L'avenir se teintait de noir. Plus de travail, le grec aux trousses, il fallait déménager, trouver un autre boulot comme si c'était facile. Puis, il se rassurait. Que le grec vienne le chercher était purement grotesque, c'était un fantasme. Comment aurait-il fait, d'abord ? Allait-il mobiliser sa famille, toute sa corporation, pour retrouver un carton d'ampoule de morphine dont le contenu était certainement déjà liquidé ? Non, c'était franchement ridicule. Mais ce que l'esprit d'Albert parvenait à penser, son corps ne le partageait pas. Il continuait à trembler, sa peur était irrationnelle, imperméable à toute raison. Les heures passèrent, la nuit vint, et avec elle, les spectres, l'épouvante. Le grossissement dû à l'obscurité détruisit le peu de lucidité dont il avait été capable. L'affolement reprit le dessus. Albert, seul, pleura. Il y aurait à écrire une histoire des larmes dans la vie d'Albert. Celle-ci, désespérée, naviguait de la tristesse à la terreur selon qu'il considérait sa vie ou son avenir. Alternèrent sueur froide, coups de cafard, palpitations, idées noires, sensations d'étouffement et vertige. Jamais plus, se disait-il, il ne pourrait sortir de cet appartement, mais jamais il ne pourrait y rester non plus. Les larmes redoublèrent. Fuir. Le mot tonna soudain dans son esprit. Fuir. À cause de la nuit, l'idée prit peu à peu un volume démesuré, écrasant toutes les autres perspectives. Il n'imaginait plus l'avenir ici, pas seulement dans cette pièce, mais aussi dans cette ville, dans ce pays. Il courut au tiroir, exhuma les photos des colonies, les cartes postales, reprendre tout à zéro. L'éclair suivant fit apparaître l'image d'Édouard. Albert se précipita sur l'armoire, en sortit le masque à tête de cheval. Il l'enfila avec précaution, comme on manipule une antiquité précieuse, et il se sentit immédiatement à l'abri, protégé. Il voulut se voir, dénicha dans la poubelle un éclat de verre assez grand. C'était impossible. Il chercha alors son reflet sur la vitre de la fenêtre, s'y rencontra en cheval, et ses terreurs se turent, une tiédeur bienveillante le gagna, ses muscles se relâchèrent. En accommodant, son regard tomba de l'autre côté de la cour sur la fenêtre de Madame Belmont. Elle n'y était plus. Seule parvenait au carreau une lueur venant d'une pièce lointaine de la maison, et tout fut soudain clair, évident. Albert dut respirer profondément avant de retirer le masque de cheval. Il ressentit une impression désagréable de froid. À la manière de ces poils qui emmagasinent la chaleur et restent tièdes alors que le feu est éteint depuis longtemps, Albert avait stocké un peu de force, suffisamment pour ouvrir la porte, son masque sous le bras, descendre lentement l'escalier, soulever la bâche et constater que le carton d'ampoule avait disparu. Il traversa la cour, fit quelques mètres sur le trottoir. La nuit était maintenant noire, il serra sous son bras son masque de cheval et sonna. Madame Belmont mit un long moment avant d'arriver. Elle ne dit pas un mot en reconnaissant Albert, ouvrit la porte. Albert entra, la suivit, un couloir, une pièce dont les volets étaient tirés. Dans un petit lit d'enfant, trop juste pour elle, Louise dormait profondément, elle avait les jambes repliées. Albert se pencha sur elle. Dans son sommeil, cet enfant était d'une beauté inouïe. Par terre, recouvert d'un drap blanc que la pénombre teintait d'ivoire, Édouard était étendu, les yeux grands ouverts, fixant Albert. À côté de lui, le carton d'ampoule de morphine. Albert, en expert, constata aussitôt que la quantité n'avait pas trop diminué. Il sourit, pour se libérer, enfila son masque de cheval et lui tendit la main. Vers minuit, Édouard, assis sous la fenêtre, Albert à ses côtés, tenait studieusement sur ses genoux ses planches de monument. Il avait vu la tête de son ami, une sacrée raclée. Albert dit « Bon, explique-moi un peu mieux, là, ton histoire de monument, tu vois ça comment ?» Pendant qu'Édouard écrivait sur un nouveau cahier de conversation, Albert feuilleta les planches de dessin. Ils étudièrent la question. Tout était soluble dans cette affaire. On ne créerait pas de société fantôme, juste un compte en banque. Pas de bureau, une simple boîte postale. L'idée était de proposer une promotion très attractive dans un temps assez limité, de faire le plein des avances versées sur les commandes et de partir aussitôt avec la caisse. Ne restait qu'un problème considérable. Pour monter l'affaire, il fallait de l'argent. Édouard ne comprenait pas précisément pourquoi cette question des fonds indispensables qui, hier, arrêtait Albert au point de le rendre furieux, ne semblait plus maintenant qu'un obstacle mineur. Cela avait évidemment à voir avec son état, ses hématomes, son arcade à peine refermée, ses cocards. Édouard repensa à la sortie d'Albert, quelques jours plus tôt, à sa déception au retour. Il imaginait une histoire de femme, un chagrin d'amour. Albert, se demandait-il, ne prenait-il pas cette décision sur le coup d'une colère passagère ? N'allait-il pas déclarer forfait, demain ou le jour d'après ? Mais Édouard n'avait guère le choix. S'il voulait se lancer dans cette aventure, et Dieu sait qu'il y tenait, il lui fallait faire comme si la résolution de son camarade était réfléchie, et croiser les doigts. Pendant cette conversation, Albert paraissait normal, rationnel. Il disait des choses parfaitement sensées, sauf qu'au beau milieu d'une phrase, de brusques frissons le secouaient de la tête aux pieds, et bien que la température ne s'y prêtât pas, il transpirait abondamment, surtout des mains. Il était à cet instant deux hommes à la fois, l'un qui tressaillait comme un lapin, l'ancien poilu enterré vivant, l'autre qui pensait, calculait, l'ex-comptable. Donc, l'argent pour mener l'affaire, comment le dénicher ? Albert regarda longtemps la tête du cheval qui le fixait avec calme. C'était un encouragement, ce regard placide et bienveillant posé sur lui. Il se leva. « Je pense que je peux trouver, » dit-il. Il s'avança jusqu'à la table, qu'il débarrassa lentement. Il s'assit avec, devant lui, une feuille de papier, l'encre, le porte-plume, réfléchit un long moment, puis, après avoir inscrit en haut et à gauche son nom et son adresse, il écrivit. « Monsieur, vous avez eu la bonté lors de votre invitation de me proposer un poste de comptable dans l'une de vos entreprises. Si cette offre tient toujours, sachez que